Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, va-t-on vers un allègement des mesures anti-Covid avant le 30 juin ? Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Le Premier ministre doit prendre la parole dans les minutes à venir.
Et un assouplissement, c'est ce qui semble se profiler. En effet, selon les informations de France Inter, peut-être une levée anticipée du couvre-feu.
Le nombre de malades en soins critiques est au plus bas depuis le mois d'octobre. Quant au délai entre deux doses de vaccin, il passe de 5 à 3 semaines pour lutter contre le variant Delta. Autour de 14h, levez la tête, on ne sait jamais, Thomas Pesquet sorti dans l'espace, il doit poser un panneau solaire sur la station spatiale internationale. Ce sera à 400 km au-dessus. Biden-Poutine, le face-à-face aujourd'hui à Genève. Les tensions États-Unis-Russie peuvent-elles retomber ? Nous irons à Genève. Plus de 15 millions de téléspectateurs pour voir les Bleus gagner face à l'Allemagne hier soir. Match réussi et des à-côtés politiques, un incident Greenpeace et pas de genoux posés à terre. Alexandre Vaux a mené l'enquête. Dans l'actualité encore, la campagne des régionales. Le candidat du Rassemblement National dans les Hauts-de-France, Sébastien Chenu est l'invité du 13h. Mercredi, séjour de cinéma, les sorties de films avec Corinne Pélissier. Et puis après le beau temps et la chaleur, les orages, quasiment toute la moitié ouest de la France en alerte orange. À 13h30, coup d'envoi des épreuves finales du bac aujourd'hui avec le bac pro. Et à partir de lundi, la grande nouveauté de l'année, le grand oral. Comment s'y préparer ? Quel est l'intérêt de cette épreuve pour les élèves ? 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages sur ce grand oral. Notre invité est l'un de ses promoteurs, Cyril Delay. Et puis dans C'est une chanson, nous écouterons avec grand plaisir du Michel Legrand. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Ça doit faire bizarre tout de même. Dans moins d'une heure, à 400 km au-dessus de nous, Thomas Pesquet va quitter la Station Spatiale Internationale et se jeter dans le vide. Ils seront deux, l'Américain Shane Kimbrough avec lui. Ils doivent déployer un panneau solaire à bâbord de la station. On a beau être habitué aux exploits de Thomas Pesquet, cette sortie extra-véhiculaire donne des frissons. Alors il va de soi qu'il est relié à la station, il y a même une triple sécurité. C'est la troisième fois pour lui cette sortie dans l'espace, les autres lors de sa précédente mission. Confidence à Sophie Becherel, c'est un document France Inter, un peu peur ou pas ?
Oui, il y a une appréhension, c'est certain. On n'a vraiment pas envie de faire une erreur, on n'a pas envie de faire en sorte que les choses marchent pas. C'est quand même des années de boulot pour, des centaines de personnes, mais entre les gens qui ont travaillé sur la conception de ce panneau solaire, toutes les entreprises qui ont été impliquées, les outils qu'il nous faut pour faire la sortie extravéhiculaire, la répéter en piscine, écrire les procédures, etc. Donc on n'a pas envie de faire une erreur et de casser un équipement qui a coûté $1 million. Après, il n'y a pas une appréhension, on n'a pas l'impression de risquer sa vie en permanence. Mais la sensation quand même de lâcher la station et d'être juste accroché à une longe, cette espèce de chute lente, quand on voit la station qui s'éloigne comme ça en tombant tout doucement, ça c'est très désagréable. Moi, d'être accroché avec deux doigts à la station, juste la tenir comme ça et de regarder un vide de 400 km sous mes pieds, ça fait rien en fait, parce que le cerveau a bien compris qu'on n'allait pas tomber. Par contre, de mettre une longe, donc on est accroché, il n'y a pas de problème, et de lâcher ses deux doigts et de partir comme ça dans le vide total vers la Terre, mais très très lentement, ça c'est très désagréable. Voilà. Bon, après on s'habitue, mais la première fois, oui, j'ai pas fait le fier, c'était pas super.
Thomas Pesquet, depuis la Station Spatiale Internationale, avec Sophie Becherel, à qui il confie chaque semaine son carnet de bord, son journal de bord. Cela s'appelle Mission Alpha. C'est à réécouter sur franceinter.fr, tous les épisodes précédents. Il est une époque où la rivalité entre Washington et Moscou se jouait dans l'espace. Aujourd'hui, un des terrains d'affrontement, c'est plutôt le monde cyber. Les États-Unis qui accusent régulièrement la Russie de cyber-attaques. C'est un des nombreux sujets de tension entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Ces deux-là se rencontrent pour la première fois depuis que Biden est à la Maison-Blanche aujourd'hui. Deux vieux routiers, l'un, Biden, est en politique depuis près de 50 ans, politique internationale notamment. L'autre, Poutine, en est à son cinquième président américain depuis qu'il dirige le Kremlin. La rencontre se passe à Genève, comme le sommet Gorbatchev-Reagan en 85. 3500 policiers dans les rues, une zone d'exclusion aérienne, des blindés, mais une magnifique villa 18e au bord du Léman pour abriter les discussions. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Envoyé spécial de France Inter à Genève, le sommet commence en ce moment même.
Effectivement, avec l'arrivée à l'instant de Vladimir Poutine à la Villa Lagrange, le convoi présidentiel impose l'importance de la rencontre, escortée par des centaines de policiers et de militaires, surveillés dans les airs par les hélicoptères et sur l'eau par les zodiacs de l'armée suisse. Le président russe qui n'a atterri à Genève qu'il y a une trentaine de minutes, quand Joe Biden, lui, a passé la nuit en ville, dans un hôtel intercontinental transformé en forteresse. Les deux hommes se retrouvent pour des discussions en petit comité, dans un premier temps avec leurs chefs de diplomatie respectifs, Anthony Blinken et Sergueï Lavrov, puis en format élargi, le temps où, devant durer, nous dit-on, 4 à 5 heures. La volonté de mettre les sujets sur la table est donc là, mais signe que les relations restent tendues, il n'est pas prévu de repas en commun, pas même un petit goûter, a précisé hier un conseiller de Joe Biden, et il n'y aura pas non plus de conférence de presse commune, chacun fera la sienne avant de rentrer chez soi.
Et Biden a promis de dire à Poutine quelles sont ses lignes rouges, le sort fait aux opposants, on pense bien sûr à Navalny, le soutien aux dictatures de la région comme la Biélorussie, et puis Sylvain, la cybersécurité.
Oui, le cyber est devenu un vrai terrain d'affrontement. Il y avait déjà les accusations d'ingérence russe et de désinformation dans la campagne électorale américaine qui avait déclenché le cycle de sanctions entre les deux pays. Et puis, plus récemment, plusieurs entreprises américaines ont fait l'objet d'attaques informatiques susceptibles de menacer l'approvisionnement alimentaire ou en énergie. Des attaques que Washington attribue à la Russie, ce que le Kremlin conteste, affirmant lui aussi faire l'objet d'attaques. Moscou affirme d'ailleurs vouloir un accord mondial pour limiter l'usage des armes informatiques.
Et puis selon les analystes, Sylvain, les relations entre les deux pays sont au plus bas depuis 20 ans. La seule tenue de ce sommet est une victoire pour Poutine, la Russie reconnue comme grande puissance. Comment apaiser les tensions? Un signe pourrait concerner les ambassadeurs des deux pays.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, les deux ambassadeurs ont été rappelés dans leur pays. Cela faisait suite à l'interview télévisée de Joe Biden, où le président américain affirmait que Vladimir Poutine était un tueur. Les deux pays s'accusent mutuellement de tracasserie. Les Américains ne délivrent plus de visa aux diplomates russes. L'ambassade américaine n'a plus le droit d'employer du personnel local russe. Et c'est peut-être donc de ce point de vue qu'on pourrait mesurer le succès ou non de ce sommet si les deux dirigeants convenaient à minima de normaliser leurs relations diplomatiques pour pouvoir ensuite aborder les vrais problèmes de fond.
Sylvain Tronchet en direct de Genève pour France Inter avec les moyens techniques d'Éric Audra. L'épidémie de Covid continue de reculer en France. Moins de 2000 personnes en soins critiques. C'est au plus bas depuis le mois d'octobre. Près de 31 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Vigilance collective face au variant Delta, dit le ministre de la Santé. Ce variant se propage au Royaume-Uni. Il y retarde le déconfinement. Alors, est-ce parce que les Britanniques ont privilégié la première dose de vaccin uniquement? En tout cas, en France, la stratégie vaccinale change. On réduit dès aujourd'hui le délai entre les deux doses de 35 à 21 jours, Véronique Julien.
Deux raisons motivent ce raccourcissement des délais. D'abord, apporter de la souplesse dans la prise de rendez-vous. Les vacances arrivent, on ne veut pas que les gens reportent la première injection parce que la date proposée pour le rappel tomberait pendant leur congé. On élargit donc le calendrier de la deuxième dose. Elle pouvait se faire de 35 à 49 jours. On passe à une fourchette comprise entre 21 et 49 jours. Si on veut faciliter ainsi la prise de rendez-vous, c'est bien parce qu'on est toujours engagé dans une course contre la montre. Avec le variant Delta, on sait que la meilleure arme, c'est d'avoir ces deux injections. Le plus vite possible, car c'est bien le schéma à deux doses qui est le plus protecteur. Du coup, on change de logique. Jusqu'à présent, l'objectif était de vacciner un maximum de monde avec une seule dose, quitte à repousser la deuxième. Désormais, on veut très vite un maximum de monde avec deux doses. Le délai de 21 jours est en tout cas parfaitement pertinent d'un point de vue scientifique, explique l'infectiologue Odile Launay.
Dans la phase 3, les essais ont été faits avec deux injections à trois semaines d'intervalle. Donc, on n'a aucun problème par rapport à ça. Et les données qui ont été publiées depuis, en vie réelle, ont été obtenus dans cette situation-là. Donc il n'y a aucun problème pour faire ces deux vaccins à trois semaines d'intervalle.
Et ce raccourcissement de délai annoncé hier se voit déjà depuis ce matin sur les sites de prise de rendez-vous. Sur Doctolib, on a fait le test. On peut déjà trouver un rendez-vous de deuxième dose moins de 35 jours après la première injection.
Et la circulation nettement moins rapide du virus peut-elle amener à assouplir les règles anti-Covid? On attend toujours la prise de parole de Jean Castex, Simon Le Baron.
Oui, avec pour l'instant un mot, un seul qui est lâché au service politique de France Inter par une source gouvernementale. Assouplissement. Bon. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le couvre-feu qui doit prendre fin le 30 juin sera levé de manière anticipée, c'est-à-dire dans les prochains jours? C'est cette question qui a été débattue ce matin en Conseil de défense. C'est vrai que la pression s'est accentuée sur l'exécutif ces derniers jours. On a vu beaucoup de monde dans les rues hier soir, bien après 23h, après le match France-Allemagne. Il y a eu les fêtes dispersées dans les rues de Paris le week-end dernier. La dérogation accordée aux spectateurs de la demi-finale de Roland-Garros, ouais. Effectivement, qui a aussi aussi troubler le message. Et puis dans les prochains jours, il y a la fête de la musique lundi prochain, un autre match de football mercredi entre la France et le Portugal. Dans ces conditions, le couvre-feu a-t-il encore un sens? Surtout l'exécutif est-il en mesure de le faire respecter? Réponse de Jean Castex dans les prochaines minutes.
Et le masque ne devrait pas tomber pour le ministre de la Santé. Pas question dans les prochaines semaines de changer les règles du port du masque.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Et à 4 jours du premier tour des régionales, l'invité de ce journal est la tête de liste du Rassemblement National dans une des régions clés de ce scrutin, les Hauts-de-France. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour monsieur.
Dernière enquête, intention de vote Ipsos Soprasteria, Sébastien Chenu, 36% au premier tour pour Xavier Bertrand, 32% pour votre liste. Au même stade de la campagne en 2015, Marine Le Pen était une dizaine de points au-dessus. Qu'est-ce qui a été perdu en 6 ans ?
Écoutez, moi j'ai un autre sondage, voyez-vous, qui nous donne à 34 et 33% aujourd'hui. Donc vous voyez, les choses peuvent être plus serrées que vous l'imaginez. Et on verra sur la ligne d'arrivée le résultat. Moi je n'ai pas pour habitude de commenter les sondages. Ce que je crois, c'est que l'alternance, c'est nous qui la représentons. Le changement, c'est nous qui le représentons. Et on verra bien comment les habitants se déterminent en fonction de cet objectif qui est de changer de politique, de proposer une offre politique qui soit radicalement différente aux habitants des Hauts-de-France. On ne va pas commenter des sondage alors que nous sommes à 3 jours.
Non, on peut tout de même commenter des intentions de vote et des écarts entre 2015 et aujourd'hui.
Mais on peut commenter des dynamiques. Oui. Je suis le seul candidat qui ait gagné des points dans cette élection régionale au moment où Xavier Bertrand en a perdu. Donc,
même s'il est nettement favori pour l'instant. Ok, comme ailleurs.
Vous savez, un candidat qui est favori dans les médias n'est pas toujours le favori des électeurs. Et je note qu'entre le nombre
de gens dans les intentions de vote.
Oui, qui se disent satisfaits du président de région ou du bilan de la région et les intentions de vote exprimées, il y a un différentiel de 50%. Vous voyez, tout ça est toujours très, très complexe. L'intérêt, ce sera ce qui se passera dimanche soir.
Et l'abstention devrait être élevée dans les Hauts-de-France comme ailleurs. Est-ce que vous redoutez qu'elle joue contre vous au municipal? Ça a peut-être empêché le Rassemblement National de conquérir certaines villes. Il faut qu'il y ait un statut de favori pour le candidat, pour motiver vos électeurs en particulier. Est-ce que vous redoutez que l'abstention joue contre vous, Sébastien Chenu?
Ah mais je crois que l'abstention, elle peut être redoutée par tous les candidats. Il n'y a pas un candidat plus exposé à l'abstention qu'un autre. Et c'est d'ailleurs l'enjeu de cette campagne. Moi, je suis aujourd'hui à Coucy-le-Château dans l'Aisne pour rencontrer les électeurs, parce qu'on se bat, par exemple, ici contre l'éolien. Voyez-vous, eh bien, c'est parce qu'on fait campagne, qu'on est sur le terrain et qu'on a des propositions concrètes qu'on peut amener les gens à comprendre que l'alternance, elle est possible et elle se joue avec le Rassemblement National.
Alors, l'alternance sur quel programme? Je suis allé sur chenu2021.fr, votre site. Il y a des photos, il y a un carnet de campagne, il y a des vidéos, il y a des échos des réseaux sociaux. Il n'y a pas de programme.
Vous n'avez pas assez cherché, monsieur.
Il faut vraiment beaucoup chercher. Ils sont vraiment dans les détails et les petites lignes.
Soyez de bonne foi et regardez l'ensemble.
Non, sérieusement, il n'y a pas de programme.
Et vous verrez, ne dites pas qu'il n'y a pas de programme, monsieur, c'est assez injuste. Mais regardez l'ensemble de mes publications, de mes propositions. Elles reposent sur des propositions très concrètes, notamment en matière de sécurité. Moi, c'est vrai que j'ai décidé de faire de la sécurité le projet, le programme, la priorité numéro un, parce que ce dossier n'a pas été ouvert par l'actuel président de région et que c'est la préoccupation numéro des Français et des habitants des Hauts-de-France. Donc on va mettre le paquet, pardonnez-moi l'expression, sur la sécurité.
Et vous le savez, ça n'est pas une compétence du Conseil régional. Donc en matière de sécurité, oui, vous pouvez mettre des agents dans les transports, oui, on peut mettre des caméras aux abords des lycées, mais ça n'est pas une compétence du Conseil régional. Faire campagne sur la sécurité, est-ce que c'est pas un peu promettre la lune, Sébastien Chenu ?
Monsieur, revoyez vos fiches. D'abord, vous l'avez dit, il y a une compétence obligatoire qui est la sécurité dans les transports. Quand je veux que toutes les gares et les haltes de la région des Hauts-de-France soient vidéoprotégées, c'est parce que ça n'a pas été fait. Voyez-vous, il y en a 364 dans notre région. Seulement 30 sont aujourd'hui vidéoprotégés. Lorsque je dis que je veux du personnel de surveillance à partir de 16h dans les trains, c'est que ça n'a pas été fait. Donc, voyez-vous, on va en embaucher. Lorsque je veux que nous soyons partenaires des collectivités locales, qui au niveau des équipements, de la police municipale, des brigades canines, c'est parce que ça n'a pas été fait dans cette région et que ça a été fait ailleurs et qu'on peut agir. Vous savez,
donc même si c'est pas une compétence du Conseil régional, vous avez quelques marges de manœuvre, c'est ce que vous dites.
Nous avons de larges marges de manœuvre, mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Il n'y a pas eu de volonté politique, ça n'a pas été prioritaire, et aujourd'hui on a une difficulté importante en tirage, augmentation incroyable des cambriolages, les agressions sont de plus en plus violentes. Il faut aujourd'hui tous s'y mettre pour établir la sécurité de notre pays et protéger nos compatriotes. Le Conseil régional a à faire, et le président que je serai mettra la sécurité au cœur de son action.
Les éoliennes, Sébastien Chenu, la région est la plus dotée de France, elle représente un quart de la puissance électrique éolienne. Vous dites moratoire ou vous dites, comme votre collègue Julien Odoul en Bourgogne-Franche-Comté, démantèlement?
Je dis d'abord un moratoire, un référendum régional pour obtenir un moratoire. Je dis des référendums locaux à chaque fois qu'il y a un projet éolien. Je dis aussi financement des études épidémiologiques pour pouvoir se doter d'outils très concrets pour lutter contre l'implantation d'éolien. Et je dis surtout agir. Il y a eu 1500 mâts de plus dans notre région en 6 ans. 1500 mâts de plus d'éolien, que ce soit sur mer ou sur mer ou sur terre.
Xavier Bertrand, vous répondez 166 projets refusés.
Non mais Xavier Bertrand n'a pas agi, c'est pas lui qui a refusé les projets, c'est l'État. Donc Xavier Bertrand n'a pas fait un seul référendum, n'a pas fait de référendum moratoire, n'a pas financé quoi que ce soit. Nous allons prendre ce sujet à bras-le-corps, vous savez, il y a des choses...
Là aussi, on n'est pas sur une compétence du Conseil régional. Hein.
Si on est sur une compétence du Conseil régional, en ce qui concerne le fait de pouvoir protéger tout à fait son environnement. Or, si on n'est pas sur des compétences du Conseil régional lorsqu'on protège son environnement, ou quand on protège la sécurité des habitants, on peut se demander à quoi servent les collectivités. Nous considérons que notre compétence est de protéger, c'est mon slogan, une région qui vous protège, votre sécurité, votre identité, vos emplois, votre industrie, mais aussi votre cadre de vie. Oui, on a le droit au beau dans les Hauts-de-France, on a le droit à un environnement qui soit beau.
Dites-vous aussi moratoire sur le projet de parc éolien au large de Dunkerque, sachant que selon les promoteurs, il y a 850 emplois directs à la clé et 3 fois plus d'emplois indirects. Vous dites moratoire sur celui-là aussi ?
Moratoire, on nous vend toujours des emplois, la réalité n'est jamais conforme à ce qu'on nous vend. Moratoire évidemment sur ce parc éolien et à fond sur l'énergie nucléaire, le développement de cette énergie du côté de Gravelines avec l'arrivée d'un deuxième EPR, ça fait partie de nos priorités. Là aussi, c'est pas, vous allez me dire, c'est pas une compétence. Non, mais le président de région peut y faire quelque chose, c'est pas lui qui va le décider, mais c'est lui qui va donner les priorités pour sa région. Nous, on souhaite et on croit en l'énergie nucléaire et donc qu'on arrête avec l'éolien. En mer, sur terre, l'éolien est une escroquerie. L'éolien tue des emplois. Demandez aux pêcheurs s'ils ont envie d'éolien, s'ils peuvent pêcher dans les fonds marins lorsqu'il y a de l'éolien en mer. Tout ceci est une vaste escroquerie. Ça fait l'argent de quelques-uns. Nous sommes opposés à l'éolien. C'est un choix politique fort. C'est un choix politique structurant pour notre région. Eh bien, ils mourront. Les anti-éoliens, les militants de l'anti-éolien et les militants du beau pourront compter sur moi.
Merci Sébastien Chenu d'avoir répondu aux questions de France Inter. Et chaque jour, les régionales, c'est aussi un reportage dans ce journal. Pour illustrer un thème de campagne, aujourd'hui nous allons en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez, le sortant de droite est assez nettement favori. Il y a un sujet de campagne en particulier, c'est l'économie locale, cheval de bataille notamment du président sortant, Mathilde Imberti.
Il a officialisé sa candidature dans une usine textile. Laurent Wauquiez affiche une priorité en matière économique, la relocalisation.
Vous avez une paire de baskets, je voudrais que demain elles soient fabriquées dans notre région. Vous utilisez un écran, on a un projet à Grenoble pour que demain l'écran de votre téléphone soit fait avec une technologie Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif, c'est de mettre 1 milliard d'euros pour pouvoir porter un projet de relocalisation des emplois dans notre région.
Il y a un entrepreneur dans cette campagne, le candidat LREM Bruno Bonnel, qui regrette que la formation professionnelle ait été la première source d'économie de la mandature Wauquiez.
Moi je crois surtout qu'un jeune au travail, c'est de la valeur ajoutée et que dans le cadre de la relance, il faut investir. Un jeune qui est au chômage coûte aussi beaucoup à la société, donc c'est pareil. Si vous me demandez si je vais continuer à mettre des grilles devant les lycées, je vous dis tout de suite non. Si vous me demandez si je pense qu'il faut réorienter ses dépenses vers l'emploi, la formation et la prévention, je vous répondrai oui.
La candidate écologiste Fabienne Grébert, elle insiste sur l'indispensable transition verte.
On a des chefs d'entreprise qui sont déjà en route sur la transition écologique. Nous avons besoin de partager ces expériences et d'inciter tout notre tissu économique à prendre le même chemin.
Les aides aux entreprises doivent être conditionnées, s'alarme de son côté la liste communiste insoumise et pour lutte ouvrière, le système entièrement repensé. Chantal Gomez.
Se poser le problème, doter les clés de la société à cette classe de riches parasites, les travailleurs sont tout à fait légitimes à défendre leurs intérêts. Ils ont montré qu'ils étaient essentiels.
Compétence fondamentale de la région, le développement économique s'impose difficilement dans la campagne, éclipsé par la thématique sécuritaire, privilégiée notamment par Laurent Wauquiez. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et les détails de cette campagne, on les trouve sur franceinter.fr comme pour toutes les régions que nous avons visitées dans le cadre de ce 13-14. Simon Le Baron, pendant le sujet de Mathilde Imberti, je vous voyais prendre des notes comme un damné. Ça y est, des annonces du Premier ministre sur l'assouplissement des mesures anti-Covid.
Oui, ça valait le coup de les prendre ces notes parce que ce sont de bonnes nouvelles.
Okay.
Et comme nous vous l'annoncions dès midi sur France Inter, on va vers un assouplissement des restrictions sanitaires avec d'abord la levée anticipée du couvre-feu à 23h. Ce sera 10 jours avant la date prévue du 30 juin, donc
le 21 juin.
De ce dimanche, ouais. Ce dimanche soir, donc à partir de lundi 21 juin, ouais. Pour la fête de la musique, Bruno, il n'y aura pas de couvre-feu, plus de couvre-feu en vigueur en France. Et puis, deuxième annonce très importante qui était en débat, et c'était dans l'air depuis plusieurs jours. Certains médecins, certains dans la classe politique le réclamaient, la levée de l'obligation du port du masque en extérieur. Dès demain, les arrêtés préfectoraux seront modifiés dès demain, dit le Premier ministre Jean Castex. Sauf dans certaines circonstances, évidemment, des regroupements. Oui. Par exemple, si on est dans une file d'attente, sur un marché, dans une tribune de stade, là, il faudra toujours mettre le masque, mais dans des circonstances normales, quand on se promène à l'extérieur, on ne sera plus obligé de porter le masque, qui reste toujours obligatoire, évidemment, à l'intérieur.
Évidemment. Dernier couvre-feu dimanche soir et la levée du port du masque en extérieur, sauf dans certaines circonstances, à partir de demain. Merci Simon Le Baron et bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno. Bonjour.
Deux semaines après le bug logiciel qui a empêché l'acheminement de 11% des appels d'urgence, c'était le 2 juin en fin de journée, le PDG d'Orange rendait des comptes ce matin devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Quelle ligne de défense ?
Aussi pénible que fut cette panne, le risque zéro n'existe pas, souligne tout d'abord Stéphane Richard, inédit en France. Ce bug sur les numéros d'urgence n'a malheureusement, selon lui, rien d'exceptionnel.
Le risque zéro n'existe pas dans nos métiers. C'est difficile à entendre peut-être, mais c'est comme ça. Il y a ici une liste, vous voyez, d'incidents au moins aussi importants, si ce n'est bien plus d'ailleurs, qui sont arrivés entre 2017 et 2021 dans à peu près tous les pays du monde.
Le traitement politique de cette affaire est en revanche bien particulier à la France, s'étonne le PDG d'Orange. Attention à ne pas jeter la suspicion générale et l'opprobre sur une entreprise sursollicitée pendant les confinements. 1 million d'interventions cette année. Des techniciens qui n'ont jamais démérité, rappelle Stéphane Richard. C'est d'ailleurs pour rénover ce système d'appels d'urgence avec un nombre d'appels qui a doublé depuis la crise sanitaire que les équipes sont intervenues pour moderniser les services. Une panne logicielle d'un prestataire extérieur est d'ailleurs à l'origine de la panne, souligne le PDG d'Orange. Interrogé par un député sur les potentielles victimes de la panne, Stéphane Richard appelle au calme.
Il faudra que ces enquêtes établissent effectivement un lien de causalité entre éventuellement un décès par exemple et les dysfonctionnements des numéros d'urgence. Vous savez très bien que tout ça est très complexe. Donc n'anticipons peut-être pas, on a peu tendance à faire dans notre pays, on commence par cogner, puis après on fait des enquêtes.
Les députés n'ont pas vraiment cogné, répond alors Roland Lescure, le président de la commission des affaires économiques. Ils ont juste envie de comprendre ce qui s'est passé.
Merci Laurent Kramer. Début de la session 2021 des épreuves finales du bac, aujourd'hui avec le bac pro. Et puis aujourd'hui aussi commence un nouveau tour de piste de Parcoursup, c'est la phase complémentaire qui s'ouvre à 14h. À propos du bac, le grand oral, c'est la grande nouveauté de l'année. Toutes vos questions et témoignages sur ce grand oral dès maintenant. On en parle avec notre invité à 13h30. Je vous attends au 01 45 24 7000. Qu'est-ce qui nous rassemble encore ? Eh bien, à cette question très politique, on peut répondre les grands matchs de l'équipe de France de football. 15 millions de personnes ont regardé la victoire des Bleus 1-0 face à l'Allemagne hier dans l'Euro de football. Plus gros succès à la télévision depuis 2018. On revient sur l'aspect sportif dans un instant. Mais il y a eu aussi des à côté, disons, politiques à ce match. Un coup de com' de Greenpeace a failli très mal tourner. Un militant en parapente devait laisser tomber un ballon avec un message écologiste au moment du coup d'envoi. Il s'est heurté à un câble au-dessus du stade, atterrissant pas maîtrisé, 2 personnes blessées. Greenpeace France présente ses excuses. Autre à côté politique, juste avant le coup d'envoi, les joueurs de l'équipe de France devaient mettre un genou à terre, c'est ce qui était prévu, geste symbole de la lutte contre le racisme et contre les violences policières aux États-Unis. L'affaire avait pris un tour politique, la droite et l'extrême droite en particulier, reprochant aux joueurs de confondre les polices américaines et françaises. Eh bien finalement, ils n'ont pas mis genou à terre. Bonjour Alexandre Vaux.
Bonjour Bruno.
En direct de Munich, pourquoi ont-ils renoncé ?
Eh bien écoutez, c'est ni à cause de l'action du militant de Greenpeace avant le coup d'envoi dont vous avez parlé, ni effectivement ces fameuses critiques de responsables politiques de droite et du Rassemblement National avant le match. Selon nos informations, les Bleus voulaient le faire, les Allemands n'étaient pas décidés hier matin, pas question alors de le faire seul pour le capitaine des Bleus, Hugo Lloris.
On part du principe que si on doit le faire, on doit tous le faire. Toutes les nations doivent le faire avec l'appui de l'UEFA. C'est le cas en première ligue. Tous les clubs ont été concertés, les capitaines, les joueurs. Donc voilà, le mouvement était ensemble, solidaire. Sur cette compétition, ça l'est un peu moins, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas la cause.
La preuve, il y a 15 jours, souvenez-vous, Français et Gallois ont mis un genou à terre avant un match amical. Séquence d'ailleurs non diffusée à cause de la coupure pub avant le coup d'envoi. Depuis le début de l'Euro, seuls les Belges et les Anglais ont posé un genou à terre et essuyé des sifflets. Quand l'UEFA, Bruno, l'association, l'Union des associations européennes de football, reste muette jusque-là.
Et au plan sportif, les Bleus ont réussi leur entrée dans l'Euro. Victoire face à l'Allemagne, un Paul Pogba victoire 1-0, un Paul Pogba étincelant, une défense efficace, une attaque rapide, un milieu de terrain solide. Bilan avec la consultante foot de France Inter pour les Bleus, Nadia Ben Mokhtar.
On a des joueurs de grand talent individuellement, notamment des joueurs offensifs que l'on ne cite plus. Mais pour gagner une compétition de ce niveau-là, il faut aussi avant tout avoir un collectif. Et hier soir, c'est vraiment ce qui a fait la différence, puisqu'on a eu des Bleus qui ont rendu une copie pleine de solidarité, pleine d'engagement, de courage. Et c'est vraiment cette animation défensive collective qui a permis aux Bleus de faire la différence face à l'Allemagne. Et en plus, ils ont su exploiter des contres de manière très opportuniste. On l'a dit, le score aurait pu même être encore plus lourd en faveur des Français. Mais vraiment une belle entrée dans la compétition de la part de cette équipe de France. On pouvait s'attendre à ce que l'équipe de France maîtrise encore davantage ce match. Mais là, on a prouvé hier que même dans des configurations de match un peu plus hostiles, un peu plus fermées, avec une équipe allemande qui a mis beaucoup de pression, les Bleus aussi savent réagir dans ce registre-là.
Et le prochain match des Bleus, c'est Hongrie samedi à 15h. Aujourd'hui, Finlande-Russie à 15h. Turquie-Pays de Galles 18h et Italie-Suisse 21h.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Bonjour Jean-Michel Golinski.
Bonjour Bruno.
C'est lourd, chaud et orageux.
Ah, effectivement, c'est le trio gagnant avec cet après-midi des températures de 30 à 34 degrés en général, jusqu'à 36 en Rhône-Alpes et du centre à la Bourgogne. Tout de même, des valeurs plus respirables près de la Manche, entre 23 et 26 degrés. Dans cet air surchauffé, des orages modérés vont se développer un peu comme ces derniers jours sur les différents reliefs du sud. Mais sur la partie ouest du pays, là, les phénomènes seront beaucoup plus violents, accompagnés de grêles, de fortes pluies et de rafales. Dans un premier temps, cet après-midi, de la Bretagne à la Normandie. Puis, plutôt en fin de journée, vers la Nouvelle-Aquitaine, vers le centre Val-de-Loire également. Et puis, sur les départements, donc les 28 placés en vigilance orange actuellement. Notez que ces phénomènes seront quand même assez violents. À la nuit tombée, l'ambiance orageuse va toucher de façon beaucoup plus éparse les Hauts-de-France et la région parisienne.
Jean-Michel Golinski, Météo France, nous parlons cinéma tout de suite.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Avec Corinne Pellissier, bonjour Corinne.
Bonjour Bruno.
Vos choix du mercredi, commençons par deux découvertes qui témoignent du dynamisme aujourd'hui du cinéma français. Là, ce qu'on entend, c'est La Nuée, juste Philippot. C'est un coup de cœur et un premier film qui a remporté quasiment tous les prix lors du dernier festival de Gérardmer.
Oui, allez, vous allez voir, la recette est imparable. Ah. Vous mettez dans un shaker un élevage de sauterelles, un peu de science-fiction, un drame social à la ferme, une jeune femme prête à tout pour sauver sa famille, son exploitation. Vous secouez tout ça et vous avez l'un des meilleurs films français de l'année. Ce qui plaît dans La Nuée, c'est le scénario, le malaise paysan, le quotidien à la ferme, cette serre remplie de sauterelles qui ouvre peu à peu toutes les options. La comédienne Suliane Braem est géniale. La mise en scène spectaculaire avec tout ce qu'il faut d'hémoglobine. Il y a de la tension. Juste Philippot maîtrise totalement son sujet. On dit beaucoup aussi de nos pratiques, alimentation, écologie, addiction au travail. Bien plus profond qu'un simple film d'horreur. C'est le film à voir cette semaine.
Bon, c'est noté. La Nuée et Juste Philippot, au passage, c'est un film France Inter.
Songeuse.
Ça va en ce moment ?
Ça va.
Ces âges-là, ils sont un peu cons.
Ouais, ils sont un peu cons.
Votre deuxième choix, là aussi, c'est une première. Pour Suzanne Lindon, la fille de Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon, elle fait son entrée dans le monde du cinéma avec 16 printemps.
Voilà, un très joli film sur la sortie de l'enfance qu'elle réalise et dans lequel elle joue. C'est une œuvre précoce, solitaire. Elle l'a écrit sans l'aide de personne quand elle avait 15 ans, l'a tournée à 19. L'histoire n'est pas exactement révolutionnaire, hein, mais le ton est frais, ça sonne juste. Dans l'écriture, comme dans le jeu, Suzanne Lindon nous parle de ce qu'elle connaît. L'histoire d'une fille de 16 ans qui s'ennuie au lycée avec ses amis, qui rêve d'aventure et qui va finir par tomber amoureuse d'un grand Arnaud Valois. La mise en scène est poétique, les personnages filmés souvent dans un ballet de mouvements, c'est très pur, très doux, très platonique, avec aussi des chorégraphies, des chansons.
Et la BO est signée Vincent Delerme. Lui aussi a su vous séduire, il s'appelle Amra, il a 12 ans. personnage principal d'un film qui nous emmène dans les grandes plaines de Mongolie.
Le film s'appelle Les Racines du Monde et traite d'un sujet qui préoccupe beaucoup les habitants du pays, c'est l'exploitation minière qui assèche les points d'eau, empêche les paysans d'exploiter leurs terres. Le film raconte l'histoire d'un petit garçon, Amra, futur champion de télécrochet qui va devoir embrasser les combats de tout un peuple pour rendre hommage à la mémoire de son père.
La Nuée, 16 printemps et Les Racines du Monde, voilà les trois films que vous propose Corinne Pellissier cette semaine. À bientôt Corinne.
Les dimanches 20 et 27 juin, rendez-vous pour voter et élire les conseillers de votre région et de votre département.
Tu vas voter au régional ?
C'est important, la région.
Pourquoi ?
La région, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, les transports, les lycées, la formation professionnelle, la transition écologique, les systèmes agricoles alimentaires, le soutien à la culture et puis la santé. C'est de nos vies dont il s'agit.
Exprimez votre voix par les urnes dans un bureau de vote ou par procuration les 20 et 27 juin.
France Inter et la Massif présentent
Grand bien vous fasse la séance.
Disponible en replay. La première conférence en ligne animée par Ali Rebéi sur le thème « La puissance des liens ». 1h15 de conversations passionnantes avec
Boris Cyrulnik et Rebecca Chankland
pour comprendre et renforcer nos liens aux autres.
Grand bien vous fasse la séance.
À découvrir ou redécouvrir dès maintenant en replay sur franceinter.fr.
En partenariat avec la Massif.
Massif, essentiel pour moi.
Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvy.
C'est aujourd'hui que commencent les épreuves finales du bac 2021. Les épreuves, les élèves du bac professionnel passaient ce matin l'épreuve de français. Demain la philo pour la voie technologique et générale. Et puis à partir de lundi, la grande nouveauté de cette édition 2021, le grand oral pour les élèves de terminale. Une question à traiter parmi deux dans leurs enseignements de spécialité. Rappelons rapidement ces enseignements, histoire, géo, géopolitique et Sciences Po, humanité, littérature et philo, langues étrangères, maths, numérique, physique, chimie, art ou encore sciences éco. 20 minutes en tout pour ce grand oral, pour expliquer le sujet, échanger avec le jury, deux profs, un de la spécialité en question, un autre qui joue le rôle du béotien, et puis pour faire le lien entre la question et un projet professionnel. Alors vous, ou vos enfants, ou petits-enfants ont préparé ce grand oral, quelles difficultés, qu'est-ce qu'apporte cette épreuve aux élèves dans leur vie personnelle et dans la préparation de la vie professionnelle? Je vous attends au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour vos témoignages et questions. Notre invité jusqu'à 13h45 est professeur d'art oratoire à Sciences Po. Il a participé à la conception de ce grand oral qu'il défend ardemment. Il est notamment l'auteur de ce rapport « Apprendre à tous les élèves à porter leurs propres paroles ». Bonjour Cyril Delay.
Bonjour, merci de votre invitation.
En quoi est-ce une petite révolution que ce grand oral ?
C'est la première fois en France qu'on se donne comme objectif de donner la compétence parler en public de façon claire et convaincante à tous les élèves. Et quelque part, on peut s'étonner que ça n'ait pas eu lieu avant. On s'auto-congratule d'être dans une démocratie, mais finalement, l'habileté de parler en public, jusqu'à présent, était réservé à quelques privilégiés. Ouais. Et avec ce grand oral du bac, on change les choses, c'est-à-dire l'éducation nationale, le service public de l'éducation dit maintenant, on se donne comme objectif de donner cette compétence à tous les élèves dans la voie professionnelle, avec le chef-d'œuvre, l'oral du chef-d'œuvre, ouais, et aussi dans la voie technologique et générale.
Ça manquait aux élèves français ?
Sincèrement, on était unijambiste à l'école en France, c'est-à-dire on était sur l'écrit et on se privait de l'oral comme levier d'apprentissage. Parce que l'oral est un formidable moyen d'apprendre, c'est ce qui permet de s'adresser à toutes les intelligences. La semaine dernière, j'étais invité par un collègue qui enseigne à des élèves en situation de handicap, handicap sévère, cognitif. Et il me disait, je les ai pris en charge il y a 2 ans, ce sont des élèves qui ont 13-14 ans, et j'ai voulu leur faire un cours niveau école primaire sur les terminaisons, la conjugaison. Et ça a été la catastrophe. Ils sont tous restés murés dans leur silence. Le jour suivant, il reprend, mais cette fois-ci, il vient avec des petites silhouettes, il leur raconte des histoires. Et déjà, les élèves l'écoutent. Et le jour d'après, les élèves eux-mêmes voulaient raconter des histoires. Ils me racontent cette histoire-là, qui est une belle histoire. Ouais. Je veux en avoir le carnet, donc je vais assister à une de ces séances. Il y avait ces fameuses silhouettes qui représentaient des chevaliers. Et vous avez ces élèves qu'une commission a déclarés en situation de handicap cognitif irréversible, hein, qui vont choisir leur silhouette, qui présentent leur chevalier et qui leur donnent des caractéristiques. Et il y en a une qui, 2 ans auparavant, ne savait pas lire, qui se terrait sous la table dès qu'elle voyait un stylo rouge, qui dit « voilà mon chevalier ». Et il aime l'école. Et c'est pas fini. J'ai vu ça en direct, ces élèves qui ne savaient pas lire, alors qu'ils avaient été déjà pendant 6 ou 7 ans à l'école. Ce jour-là, vous aviez une ATSEM qui aidait cet enseignant, qui marquait sur son clavier ce que disaient les élèves. Elle en tire un recto qu'elle leur distribue. Les élèves lisent pour eux-mêmes le recto, puis le lisent à voix haute. Et c'est ce parcours, il est permis par l'oral.
On va au standard tout de suite pour les questions très concrètes sur ce grand oral. Bonjour Constant.
Bonjour.
Vous êtes élève en terminale et vous avez l'impression de ne pas avoir pu bien préparer ce grand oral, c'est bien ça?
Oui, bonjour. Alors, je suis effectivement en classe de terminale près de Lyon. Je pense que déjà, j'aimerais dire que la majorité des élèves trouvent que c'est une très bonne idée ce grand oral, puisqu'on peut s'exprimer sur un sujet qui nous intéresse. Mais effectivement, on a plusieurs inquiétudes. Tout d'abord, il y a eu un flou tout au long de l'année qui ne s'est pas enlevé, qui est resté. Et surtout, avec la situation sanitaire et le fait qu'on ait été pour certains lycées en jour sur deux, on n'a pas pu faire beaucoup d'oraux blancs et donc on a vraiment manqué de préparation.
Cyril Delay, il y a beaucoup de profs aussi qui disent qu'il n'y a pas eu de préparation spécifique.
Alors, déjà, ça fait quand même 15 mois que tout ça est lancé. C'est vrai qu'à l'échelle de l'éducation nationale, ça peut paraître court, mais en vérité, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites. Et je le dis pour ce lycéen comme pour les autres, en deux clics, vous tapez grand oral, vous allez sur Eduscol, vous avez une foire aux questions, et ça c'est depuis le mois de septembre, c'est en place. Vous avez une note de 75 pages qui précise tous les attendus. C'est-à-dire, si vous avez une question de « qu'est-ce qu'on attend de moi ?», là, vous trouvez des réponses.
Oui, mais ça, c'est de l'écrit, vous qui vantez l'oral.
Alors, ensuite...
Comment on le prépare, comment on s'entraîne?
Figurez-vous, j'écoute France Inter le matin et vous faites bien.
Cette
très belle série sur les élèves qui s'entraînent entre eux.
Oui.
Et ça, je crois que c'est la meilleure chose, parce que l'autre camarade, il va avoir un regard bienveillant et exigeant. Il va jouer le rôle du jury, donc il va vous dire « tiens, ça je comprends pas ». Et c'est ça qui va permettre de progresser. La vérité, et les élèves le sentent bien, ça a été dit là, c'est qu'ils sont heureux d'avoir cet oral. Parce qu'ils vont avoir cette compétence pour la vie entière, après. Alors c'est vrai que pour la première promotion, c'est un peu dur. En plus, il y a eu la pandémie, les demi-classes, etc., l'enseignement en distance. C'était pas les conditions les plus faciles. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que, oui, aujourd'hui, c'est un peu d'anxiété. Qui n'a pas eu peur la veille d'un examen, d'accord. Mais c'est fondamentalement un oral bienveillant. Et pourquoi bienveillant? Parce que, comme l'a dit cet élève de terminale,
Constant.
Comme l'a dit Constant, ils ont choisi leur sujet. Donc, ils vont partager quelque chose qu'ils ont choisi. Et presque la première phrase de ce grand oral, c'est « je vais vous parler de tel sujet parce que » et donner la motivation de leur engagement, de cette motivation sur le sujet.
Avant d'entendre Vincent, qui est enseignant au standard, deux questions. Y a-t-il des gens définitivement nuls à l'oral et des gens spontanément à l'aise à l'oral?
Sincèrement, des gens définitivement nuls. Depuis 20 ans que je travaille sur ce métier, j'ai formé plus de 8000 personnes, j'en ai jamais rencontré.
Vous avez toujours réussi à débloquer des gens qui pouvaient être extrêmement timides, extrêmement mal à l'aise. Comment on débloque comme ça quelqu'un?
Alors, c'est ça qui est incroyable, et c'est pas pour parler de moi, c'est des méthodes en vérité qui existent depuis l'Antiquité.
Ça s'apprend en fait.
Ça s'apprend, et en gros en deux jours, vraiment en deux jours, qui que vous avez en face de vous, qui que vous ayez en face de vous, vous donnez les fondamentaux de la prise de parole en public, en deux jours. Et pourquoi? Parce que ce qui est fondamental, mais qu'on a oublié en France, c'est que c'est d'abord une activité physique de parler en public. Ouais. Et si vous posez les fondations avec le corps, c'est-à-dire ma respiration, la gestion du stress, mes points d'appui, les progrès viennent très vite. Mais c'est vraiment les fondations. Hier, il y avait le match de foot entre la France et l'Allemagne. Quelque part, c'est les mêmes fondamentaux. D'ailleurs, vous écarquillez les yeux, mais oui, vous avez des joueurs qui se parlent entre eux, qui s'écoutent. Voyez, et qui ont un objectif. Ça, c'est les fondamentaux de l'oral, c'est on se parle, on s'écoute et on a un objectif. En classe, c'est évidemment d'apprendre.
L'émotion du jour même. On peut être très bon quand on s'entraîne entre élèves quelques jours avant. Et le jour même, vous le disiez vous-même, qui n'a pas été angoissé la veille ou le jour d'un examen, ça peut bloquer.
Oui, c'est normal, ça s'appelle le stress. Et tout le monde connaît le stress, vous, moi, le président de la République.
Ouais.
C'est quelque chose d'humain. Et c'est quelque chose pendant quelques secondes qu'on peut pas contrôler parce que ça passe pas par le cortex.
Oui.
Et donc la première chose, c'est de reconnaître ce symptôme de stress et puis d'agir dessus. Et on agit très simplement dessus par la respiration. C'est ce que font les sportifs de haut niveau, que peut-être vous faites aussi.
Oui, c'est par radio, exemple, ça nous arrive, oui.
À titre exercice très concret, c'est à l'exercice qui vient des sportifs de haut niveau, c'est la cohérence cardiaque. Ça consiste à avoir des inspirations et des expirations de même durée. C'est-à-dire, j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes. Je fais ça pendant 3 minutes et ça réduit mon rythme cardiaque de 30%, et ce qui permet de gérer ces symptômes de stress qui nous embêtent.
Vincent au standard, vous êtes professeur au lycée. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour. Alors moi, j'apporte un témoignage qui va un peu nuancer les propos. Mon lycée vient d'organiser 2 semaines d'oraux blancs à destination des terminales. Le constat que j'ai fait moi, que ce soit avec des élèves que j'ai eu en SP ou d'autres, c'est que dans l'immense majorité des cas, les élèves qui sont de très bons niveaux scolaires s'en sortent extrêmement bien. Et les autres, qui peuvent être en difficulté, voire en très grande difficulté, ne s'en sortent absolument pas ou très mal, soit dans la préparation, et encore plus au niveau des oraux blancs, puisque là, souvent, ils ne viennent absolument pas, ne donnent pas signe de vie, repoussent l'échéance, sans doute font-ils un pari sur l'épreuve réelle. Et donc, moi, ce qui me préoccupe fortement en tant qu'enseignant, c'est de préparer des élèves à une épreuve qui va renforcer des écarts et qui va davantage ressembler, dans les faits en tout cas, à une épreuve de concours qui fait du tri, plutôt qu'à une épreuve d'examen qui vient certifier et de connaissances avérées et de compétences qui peuvent être construites.
Et pardon, quand vous les préparez sur le fond ou vous préparez l'exercice proprement dit de l'oral également ?
Alors les deux, moi j'ai passé pas mal de temps, malgré la situation, à essayer d'encadrer le fond quand il y avait encore des cours en présence, en demi-groupe.
Oui.
Et là, déjà là, il y a de très grandes difficultés, parce que pour pas mal d'élèves, le simple fait de devoir réfléchir à une question à laquelle il ne s'agirait pas forcément de répondre, mais plutôt de réfléchir, c'est déjà un exercice très difficile. C'est assez conceptuel en réalité, si on veut que ça ait du sens. Et tout ça prend du temps, il y a une gestation qui est pas simple, et là qui est quand même sur des délais très courts. Oui. Et ensuite, également sur l'exercice, le constat, c'est que pour beaucoup d'élèves, ils vont apprendre par cœur un texte, avoir beaucoup de mal à reformuler des phrases qu'ils vont trouver toutes faites sur le net, ne pas vraiment comprendre pourquoi on leur demande de reformuler, ne pas vraiment saisir des questions. Et en fait, il y a quelque chose là, même dans la forme, qui, hélas, pour des élèves qui sont, disons, ceux qui peuvent être un peu moyens, voire en difficulté, ils vont se réfugier dans des stratégies qui sont des stratégies qui sont celles contre lesquelles on lutte justement dans l'enseignement depuis des années.
Bien compris. Cyril Delay, les bons y arrivent, les moins bons y arrivent encore moins, et ça accroît les inégalités.
Alors, moi je respecte tout à fait le témoignage du collègue, et je pense déjà collectivement, il y a cet effort d'entraînement en dépit de la pandémie. Pour tous les personnels, ça a été vraiment très dur, et pour les élèves aussi.
Ouais.
Maintenant, l'enjeu, c'est de donner cette compétence aux élèves maintenant, parce que cette génération meurtrie par le Covid, si elle n'a pas cette compétence, eh bien ensuite, elle va se retrouver dans l'enseignement supérieur, dans la vie professionnelle, comme ceux qui ont précédé, sans cet atout-là. Donc c'est fondamental de leur donner. Évidemment, ceux qui viennent pas en cours, c'est difficile. Mais à partir du moment où ils viennent, moi, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai constaté plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui ont des difficultés ont les marges de progression les plus rapides à l'oral, à condition, encore une fois, de partir des points d'appui, des fondations, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire je suis debout, je parle à l'autre. Et une fois que vous donnez ces points d'appui à la personne, vous lui dites de construire des phrases simples avec une idée par phrase, sujet, verbe, complément. Et ça, tout le monde peut le faire. Mais une fois que vous avez cette gymnastique, c'est pour la vie entière. Donc ça vaut le coup d'investir. Moi je ne crois pas que ça va... c'est pas ce que j'ai constaté, moi, en tous les cas. J'ai vu des élèves qui pouvaient être par ailleurs en difficulté, pour lesquels ce travail de l'oral a été une chance. Et je les ai vus progresser très rapidement. Ça veut dire en quelques jours.
Est-ce que ça n'est pas plus facile dans les matières littéraires que dans les matières scientifiques ? Je vous prends quelques exemples là, que j'ai trouvés sur Internet de sujets. Par exemple, pour ceux qui font histoire-géo, comment l'Inde est-elle devenue une puissance spatiale. On voit bien comment ça peut se défendre à l'oral. En revanche, comment peut-on utiliser l'effet Doppler en médecine ? Il y a des sujets de maths très pointus également. On se dit que pour les scientifiques, c'est plus compliqué cet oral que pour les littéraires.
Alors, je peux vous dire, sur les deux sujets, moi, je jouerai le rôle du béotien, autant sur l'un que sur l'effet Doppler. Moi, je pense que ce qui est fondamental, et c'est le point de méthode, c'est que l'élève doit choisir son sujet. À partir du moment où il l'a choisi, il sait pourquoi il l'a choisi. Moi, j'ai vu des élèves qui avaient choisi de travailler sur la couleur dans la peinture, de l'Antiquité à nos jours, sur la partie artificielle ou naturelle, d'autres sur la gravité, le G, la force G qui s'applique sur le conducteur de voiture automobile, vous voyez, des choses comme ça.
Donc, bon, s'il le choisit, il y aura une maîtrise, que le sujet soit scientifique ou littéraire.
C'est là la différence avec un oral où vous piochez le sujet juste avant de passer, ou même où votre enseignant vous donne une liste de sujets, vous devez aller dedans, ou vous allez sur Internet et vous faites la loterie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la philosophie de ce grand oral. C'est je choisis quelque chose qui m'intéresse, et parler de quelque chose qui nous intéresse et sur lequel on a travaillé, c'est quand même très honnête comme démarche.
Et encore une question, il nous reste 30 secondes. La dernière partie, faire le lien entre le sujet et un projet professionnel. À 17-18 ans, il y en a beaucoup des élèves qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de, de leur vie.
C'est pas exactement projet professionnel, c'est projet d'orientation, c'est parcours. Et c'est là aussi où c'est important, c'est j'ai choisi ce sujet. Donc c'est en lien avec moi, avec mon parcours, y compris pour dire, je vous parle des papillons, même si je veux faire médecine, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les papillons, donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça peut être aussi pour parler de ses doutes. Bien sûr, la question de la vie professionnelle, de l'orientation professionnelle, finalement, elle se pose toute la vie. Ce n'est pas posé seulement à 17, 18 ans ou 20 ans. C'est encore à 45, à 49, à 60.
Et en une seconde, un oral masqué, puisque ce sera le cas.
Eh bien, l'important, c'est que le corps soit là. Et vous verrez que si le corps est là, la respiration est là, finalement, le masque devient anecdotique.
On est quatre autour de la table. On y arrive à peu près avec les masques. Merci beaucoup, Cyril Bellet, d'être venu dans les studios de France Inter. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvy.
Poutine et Biden se voient aujourd'hui à Genève. Genève, capitale internationale, ville de l'ancienne Société des Nations.
Capitale du multilatéralisme, mais là c'est un face-à-face.
À tout à l'heure, c'est dans 10 minutes. Avance la troisième épisode de notre feuilleton dans le Morvan, cette terre de gauche où les électeurs sont déboussolés. Et tout de suite, c'est une chanson. Bien le bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Plus de deux ans après la mort de Michel Legrand, le premier prix qui porte son nom sera décerné samedi. Il récompensera un compositeur ou une compositrice de musique de film. C'est Macha Merrill, la dernière compagne de Michel Legrand, qu'il remettra. Macha Merrill, à votre micro, le temps d'une chanson.
Et elle m'a tout d'abord expliqué le pourquoi de ce prix, Macha Merrill. Prix qui sera décerné par un jury présidé par l'acteur Jacques Perrin et remis au domaine de la Motte dans le Loir, et là où Michel Legrand a passé les dernières années de sa vie et où Macha Merrill entend créer un festival international de musique, de film et même une résidence d'artistes un peu sur le modèle de la Villa Médicis.
Je réalise un rêve de Michel qui était de réunir chez lui, dans la maison où il vivait quand il était en France, où il a beaucoup composé, des musiciens excellents pour travailler ensemble, pour écrire, pour enregistrer. Donc de faire un studio d'enregistrement, une salle de spectacle, une salle de concert, et faire des bœufs aussi avec le jazz, puisque le jazz était vraiment très cher pour lui. Et donc, dans cette propriété qui est grande hein, et qui a des terrains où je souhaitais mettre un chapiteau pour faire un festival, Madame Covid m'en a empêché l'année dernière, mais cette année, alors la mordicus, je dis, je vais créer le prix Michel Legrand, car chaque année, à l'occasion de ce festival Michel Legrand, nous allons remettre un prix à un compositeur de cinéma. Alors là, il y a une raison vraiment presque militante, c'est que les jeunes cinéastes ont la trouille de prendre un grand compositeur. Ils prennent un petit bout de Bach, une chanson, un chien qui aboie, une porte qui grince, et ils pensent que c'est eux qui sont l'auteur de la colonne sonore. Et c'est une erreur, parce que les grands films, tous les grands films dont on se souvient, il y a toujours une grande musique à la clé et un grand compositeur. Et c'est ça que je voudrais continuer à faire prospérer dans ce festival.
Dans le même instant, la même seconde, à travers le monde, à travers le temps, dans le même instant, à travers l'espace, dans le temps qui passe, en nous emportant, dans le même instant, d'autres mondes naissent, d'autres disparaissent, à travers les cieux, dans le même instant, on en perd la trace, et nous, on s'embrasse, et l'on est.
C'est donc la chanson « Dans le même instant » que Macha Merrill a choisi de nous faire écouter.
Un titre composé dans les années 70 sur des paroles de Jean Dréjac et qui concluait l'hommage rendu à Michel Legrand au Théâtre Marigny le jour de ses obsèques. Un hommage conçu notamment par Macha Merrill pour qui cette chanson compte énormément.
Elle dit que life goes on, c'est-à-dire que la vie continue, que non seulement elle continue mais peut-être qu'elle se répète. En tout cas, c'était une des convictions de Michel, c'est qu'on se retrouve après la mort, et puis aussi qu'on revient. Qui dit le contraire ? Pourquoi pas y croire ?
Écrire de la musique et laisser sur terre de la musique, c'est une façon de ne jamais mourir.
Ah ben voilà, absolument. Et lui-même, il pensait que la musique, c'était un art supérieur qui va directement de l'âme vers le ciel. Et puis, il a écrit des choses tellement différentes les unes des autres qu'on est toujours étonné quand on entend ses musiques. Et moi, j'ai plaisir à faire connaître des musiques moins connues, moins rabâchées de Michel. Il n'est pas seulement un compositeur des films de Jacques Demy. Il est un grand compositeur, point.
Dans le même instant, un avion décolle, un gosse à l'école rêve en l'écoutant. Dans le même instant...
Quand vous entendez cette chanson-là aujourd'hui, elle vous replonge à quel moment de votre vie ?
Oh, c'est compliqué, mais elle me ramène à ces derniers instants que j'ai vécu avec lui. Il est mort dans mes bras, d'une façon douce et sereine, sans peur. Et il m'a passé ça. Il m'a passé cette insouciance. Et donc, c'est ça que je retiens de cette chanson.
Noyé dans le temps, perdu dans l'espace, nous deux on s'embrasse. Et c'est ça.
Dans le même instant, le choix de Macha Merrill, Frédéric.
La comédienne et romancière Macha Merrill qui remettra donc le premier prix Michel Legrand samedi prochain dans le Loiret.
À demain.
À demain.
Non. Je disais non parce que demain, le 13-14, est en Bourgogne-Franche-Comté, au Creusot, et que donc on se retrouve vendredi, et je vous explique tout ça dans un instant. Pour l'instant, c'est la troisième étape de notre traversée de la Nièvre. À propos de ces électeurs de gauche qui s'éloignent de la politique, on se souvient de l'homme qui a incarné la gauche dans la Nièvre et dans le pays, François Mitterrand. On se souvient de sa phrase « Contre le chômage, on a tout essayé ». Eh bien aujourd'hui, dans cette terre qui a perdu beaucoup d'industrie, les élus locaux se battent pied à pied. Cet épisode commence devant un bâtiment, Antoine Gignot, avec la maire de Monceau, chez Laisseton, Marie Leclerc.
Alors là, vous êtes devant la maison qu'on appelle Maison Barouin, du nom de son dernier propriétaire. Et donc, l'idée a été d'en faire une maison intergénérationnelle. Donc, 10 logements, mais pas que. Sur les 10 logements, il y en aura 6 qui seront pour des handicapés. Il y aura 3 emplois et demi. Et nous avons un deuxième projet, mais là, réalisé que par du privé, pour l'accueil des personnes âgées. Alors là, ça va faire 6 emplois.
On voit bien, quand on vous entend en parler, qu'on est à se battre à un emploi près.
Ah, c'est clair, c'est sûr. Et on vise beaucoup les emplois à la personne. Je pense que c'est ça l'avenir. On n'aura plus d'usines de production qui vont s'installer aussi loin. Voilà. Et où le télétravail, j'y crois aussi beaucoup.
Pour comprendre la disparition de la gauche ouvrière et des militants, il faut aller jusqu'à Château-Chinon, le fief de François Mitterrand. L'usine DIM, dernier gros employeur de la région, a fermé ses portes en 2004. C'est là que travaillait Michel Herpin. À l'époque, elle était déléguée CFDT. Elle n'a pas retrouvé de travail, alors elle s'est installée comme famille d'accueil pour les enfants placés dans la région.
Je m'appelle Michel Herpin, je suis assistante familiale, je travaille pour le conseil départemental, j'habite à Château-Chinon, campagne.
2004, vous êtes un peu les derniers à fermer dans la région.
Après nous, il y a eu l'imprimerie de l'armée de terre, comme nous, hein, qui a fermé, je crois, 2-3 ans après. Et là, Château-Chinon s'est retrouvé plus du tout considéré même comme une ville, hein, on va dire. C'est un grand village, quoi, maintenant. Quand j'étais chez DIM, j'étais conducteur de machine. J'étais au tissage du collant. J'étais en 3-8. Pour nous, si vous voulez, l'usine DIM faisait partie un peu du patrimoine de Château-Chinon. C'était une usine qui avait été créée en 1960. qui faisait travailler énormément de salariés. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 600 personnes à l'époque. Donc quand ça a fermé, ouais, ça a créé une grosse perte quand même. Comme il n'y a plus de travail, bon, les gens ils partent. Il y a eu beaucoup de fermetures, les magasins, il y a des magasins de vêtements, il n'y a pratiquement plus rien. Bon, il y a les supermarchés, mais je veux dire, il n'y a rien eu en création, quoi. Donc ça s'est vidé petit à petit. Je crois que maintenant on doit être, je sais pas, 2000 habitants, je crois, à peine même. Alors qu'avant, on était quand même 2500. Les jeunes sont encore là parce qu'on a malgré tout la chance d'avoir de bons établissements scolaires avec les lycées, le lycée hôtelier. Voilà, ils ne restent pas. Ben non, parce qu'il n'y a pas de travail.
Est-ce que pour vous, ce changement un peu du paysage joue dans le fait que la gauche aussi a perdu à un moment donné des bastions historiques et est devenue de moins en moins présente politiquement ?
Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de ramener des entreprises, mais l'endroit ne les intéressait pas pour s'installer. On est loin de tout quand même. Je vous avoue qu'actuellement, oui, je ne sais encore pas pour qui je vais voter. Je ne sais pas trop. Je sais pas, je crains beaucoup d'abstention surtout. Ici, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Et certainement, leur réaction, comme au niveau national, c'est de penser que le RN va tout changer, va apporter la solution miracle. Il ne faut pas se tromper, quoi, parce que ça peut être grave.
Et comment regagner la confiance des électeurs ? Donc, demain, le 13-14 sera en direct du Creusot, autre terre de gauche, dans cette Bourgogne-Franche-Comté emblématique des enjeux nationaux, des régionales. Montée de l'abstention, division de la gauche, RN en tête et les autres en arbitre. Les quatre principaux candidats à la présidence de région seront au micro du 13-14. Il est 13h55.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, riche actualité diplomatique depuis une semaine et la tournée de Joe Biden en Europe. Dans le vif aujourd'hui, réflexion sur une ville et un organisme qui ont tenté de donner corps à ce concept vague de communauté internationale. C'est à Genève que se tient aujourd'hui la rencontre Poutine-Biden. Genève, capitale internationale depuis la naissance de la Société des Nations. L'ancêtre de l'ONU, c'était en 1919. Société des Nations à laquelle on peut ou pas adhérer Moscou et Washington.
Eh ben, c'est quand même une idée qui vient du président américain Wilson. On l'a comparé à la chevalerie de la table ronde. Vous savez, les chevaliers du roi Arthur sont tous à égale distance les uns des autres et s'observent. Mais l'idée est américaine. Il faut délégitimer la guerre, vive la sécurité collective, répète Wilson. Alors que le Congrès ensuite à Washington ait refusé l'adhésion à la SDN, c'est une autre affaire qui relève de la tradition isolationniste des États-Unis. Mais sans le président, l'ouverture solennelle de la SDN le 15 novembre 1920 n'aurait pas eu lieu.
Et c'est donc à Genève, Suisse, que naît la SDN.
Oui, Wilson, fils de pasteur, connaissait le rôle de Calvin. Il avait comme d'autres apprécié celui de la Croix-Rouge, qui avait œuvré depuis Genève à la recherche et à la protection des prisonniers de guerre. Et le Conseil fédéral helvétique était prêt à tendre les bras à la nouvelle institution. La population, un peu moins, qui consultait par votation, n'a pas répondu par un oui très net. Mais enfin, là, il n'y a rien d'étonnant. Nous sommes en Suisse, neutralité et isolationnisme vont de pair. Au début, les diplomates qui viendront travailler à Genève trouveront d'ailleurs la ville un peu austère, mais enfin, on y voit le massif du Mont-Blanc.
Alors, la SDN, c'est 42 États au moment de l'ouverture, et pas seulement des Européens. C'est bien une instance devenue planétaire au fil des années.
Avec des pays d'Asie et d'Afrique qui sont reconnus comme adultes dès lors que leur adhésion est acceptée. Ce qui manque pas de sel quand il s'agit de pays antiques comme l'Éthiopie, 1923, l'Irak, 1932, l'Égypte, 1937. Au moment de l'ouverture, le président de la Confédération élevée Giuseppe Motta, un Tessinois, avait recommandé que les pays vainqueurs de 14-18 ne rejettent pas pour toujours la collaboration avec les vaincus. Ceux-ci ont fini par être admis, l'Allemagne, en 1926. Alors cette date, ça marque un peu l'apogée de la SDN, mais c'est aussi un faux semblant, parce que l'Allemagne de la République de Weimar, qui joue alors la carte de la paix, le fait par des accords particuliers plutôt que par le système multilatéral SDNien.
SDNien.
Oui, comme omnisien, voyez.
Ah, SDN,
en 1925,
SDNien,
par exemple, l'Allemagne a signé en Suisse à Locarno, le pacte qui est garanti par 4 signataires seulement, Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni.
Alors le pacte de la SDN, SDNien si vous y tenez, prévoit pourtant qu'en cas d'agression d'un membre par un autre, eh bien des mesures de rétorsion soient appliquées par tous.
Eh bien ne le seront jamais. Bon. Quand la Mandchourie chinoise sera occupée par le Japon en 31. Souvenez-vous, Tintin, le lotus bleu. Quand l'Éthiopie sera occupée par l'Italie en 35, la SDN sera impuissante. Les années 30 seront celles de son échec. Hitler s'en retirera en 34. Son deuxième secrétaire général passera son temps à multiplier en vain les accommodements avec les dictatures. C'est un Français d'ailleurs, mais qui se souvient seulement de son nom? Joseph Avenol. C'est lui qui a inauguré le Grand Palais des Nations, décoré par le peintre catalan, certes spécialiste du trompe-l'œil. Avenol, ensuite, va accompagner la réduction du personnel de 700 à 100 en 1939.
À propos de personnel, vous parliez de Tintin, on pourrait parler d'Albert Cohen. Le personnel esdénien, il le décrit dans Belle du Seigneur.
Un passage particulièrement connu montre le personnage principal, Adrien, qui compte ses jours de congé prévisibles avec son élégant porte-mine en or. Il arrive, au bout de 3 pages, à 87 jours, plus les 52 samedi matin, parce que pour 2 heures de travail, pourquoi faire le trajet entre sa villa patricienne des bords du lac et le palais des nations. Et quand on lui parle des textes inutiles qu'il rédige avec le même porte-mine et qu'il agrafe ensuite, il montre ces deux instruments menaçants, le porte-mine donc, et l'agrafeuse, comme s'ils étaient des mitrailleuses capables d'arrêter les dictateurs. Et il fait un nouveau calcul, attention, 80 agrafes à l'heure. En fait, la SDN, au moment de sa fin, était renvoyée à la périphérie des affaires mondiales qui se traitaient comme avant 14 par l'affrontement direct des chancelleries nationales, comme aujourd'hui, où sur fond de la clémence, certes, nous assistons au face-à-face brut de deux puissances, les États-Unis et la Russie.
Merci Jean Lebrun, le vif de l'histoire et la terre au carré après 14 heures. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno, on parlera du rapport des Français à l'agriculture.
C'est noté, à tout de suite.